Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi avec ce matin Christophe Cessieux, Fred Weiss, Renaud Longuèvre, Olivier Giraud. Et pendant la pub, nous avons découvert un véritable scandale. Fred Weiss ne va pas porter la flamme durant les Jeux Olympiques, en tout cas avant ces Jeux Olympiques de Paris. C'est vrai ça ?
C'est vrai, oui c'est vrai.
Mais tu es quand même médaillé olympique pour
vice-champion olympique.
Alors, je ne connais personne, je n'ai contacté personne, personne ne m'a contacté.
Non, mais c'est aux gens de te contacter. C'est pas à toi de faire l'effort d'aller chercher le truc.
Non,
parce que je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont peu de rapport finalement avec l'olympisme, qui vont porter la flamme, mais un garçon comme Fred, qui est vice-champion olympique, qui a fait briller les couleurs françaises à Sydney, qui n'est même pas été contacté par le COJO, eh bien, messieurs et dames du COJO, je vous en prie, faites quelque chose pour mon Fred, quoi. J'aimerais bien le voir courir comme ça, 200 mètres avec la flamme.
C'est peut-être ça le problème, c'est que les mecs se sont dit, il va pas pouvoir tenir 200 mètres.
On va essayer de le marcher, Fred.
Olivier, toi, le champion olympique en 2008 avec l'équipe de France de hand, tu vas porter la flamme?
Oui, j'ai accepté de le faire, ouais.
Ok, bon.
Mais en bas de chez moi. Mais
ils t'ont contacté? Comment ça s'est passé?
Il est dans les hautes sphères.
Voilà, on peut pas comparer. Il y a les torchons et les serviettes.
Voilà, champion olympique.
Là, tu viens de mettre le doigt. Là.
On n'oppose pas les juges, s'il vous plaît, les copains, quand même. Olivier, réponds calmement.
Alors, calmement.
Mais c'est normal, il est champion olympique.
Mais oui,
mais moi, je ne critique pas
du tout. On lui a appris à pas s'énerver dans les hautes sphères.
Mais tu m'as arrêté, toi. Tu vois, le truc, Renaud, il est loin. Et tu vois, quand il est loin, il est méprisant, il est méchant. Ça.
J'ai connu un autre Olivier Giraud dans les soirées du Club Med de la Plagne.
On finit avec ça. Je l'apporterai en bas de chez moi, à Ville d'Avray, et j'en suis très content.
Ouais. Voilà, eh ben, on est très fiers et on espère que Fred Weiss va recevoir un appel, là, peut-être ce matin quand même, du COJO.
J'y crois très peu.
Oui, ben, on va faire quelque chose. Attends, 1 million de personnes qui nous écoutent. J'espère que quand même dans l'eau, il y a quand même un ou deux membres du COJO. J'espère.
Et moi, on m'a proposé de la porter. Oui. La paralympique.
Et t'as refusé.
Et j'ai refusé. Je me trouve pas crédible.
Et pourtant, t'as couvert beaucoup de Jeux Olympiques.
Oui, mais bon, j'ai jamais porté haut les couleurs de la France, quand même.
Oh, si. La France du général de Gaulle. De René Coty. De Clémenceau, monsieur.
Ouais, bref. De René Coty.
C'est de la fausse humilité.
Ta gueule, toi.
Du calme, le copain, avec
vulgaire, en plus, il est vulgaire.
Bon, je reprends les commandes de l'émission. Un vrai scandale quand même dans le monde de la natation. On va parler de dopage dans quelques instants. La lutte anti-dopage régresse-t-elle? Ce sera notre bras de fer. Le duel Pogacar-Van Der Poel aujourd'hui sur Liège-Bastogne-Liège. Le quatrième monument de la saison. Van Der Poel est-il plus impressionnant que Pogacar? Ce sera notre question. Vous n'êtes pas d'accord? Et puis 11h, nous débrieferons le Grand Prix de Formule 1 à Shanghai. Justement, comment ça se passe, Jean-Luc Roy?
Eh ben on roule, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'on a eu 10 tours sous régime de virtuel safety car ou de safety car, il y a eu tellement de problèmes. Donc Verstappen est au commandement après ce nouveau restart, devant Lando Norris qui l'a repoussé à 2 secondes 7, Charles Leclerc avec la Ferrari est 3e, devant l'autre Red Bull, celle de Perez, 4e, Fernando Alonso a fait un choix stratégique audacieux, il est parti, enfin lui il s'est arrêté, il a mis des pneus soft alors que tous les autres ont des pneus durs, Alonso il est 5e, devant Sainz 6e, Russell 7e, Piastri 8e, Hülkenberg 9e et Hamilton qui est remonté du diable vauvert pour être 10e devant Ocon 11e aux portes des points et Gasly 14e.
Ah, tout à l'heure Jean-Luc Roy. Marguerite de Navarre a dit un jour le scandale est souvent pire que le péché.
RMC, le bras de fer GG.
Ça me déplaît d'être battu par un chinois. En même temps, je vois le podium du 200 libre, donc ça me donne un peu envie de vomir. Je suis très triste de voir mon sport évoluer de cette façon. J'espère que la FINA va vite réagir et arrêter ce massacre, parce que ça devient triste. Voilà, moi, c'est pas comme ça que je conçois le truc. Et ça me dégoûte d'avoir des gens qui ont triché sur les podiums. Sur celui du 200 crawl, là, pisse violet.
Il pisse violet. C'était en 2016, au JO de Rio. Camille Lacour accusait Sun Yang, le nageur chinois triple champion olympique, à la carrière sulfureuse. 8 ans plus tard, et à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, le CIO se serait bien passé de ce nouveau scandale. Selon une enquête du New York Times et de la chaîne allemande ARD, 23 nageurs chinois ont été testés positifs lors d'un contrôle antidopage en 2021, 7 mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et 7 mois plus tard, nombre de ces nageurs rapporteront une médaille à leur pays. L'équipe de natation chinoise n'a pas été sanctionnée et pourrait avoir été couverte par l'Agence mondiale antidopage. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Salut à tous.
C'est vrai que c'est une affaire qui vient ternir l'image de la natation, mais aussi de la lutte antidopage.
Oui, et cette affaire vient surtout secouer l'Agence mondiale antidopage, le gendarme de l'antidopage, qui d'après ses révélations du New York Times, était parfaitement au courant du contrôle positif des 23 nageurs chinois. Ces 23 nageurs ont tous été contrôlés positifs à la même substance, la trimétazidine surnommée TMZ, lors d'un meeting de natation organisé début 2021. Ils n'ont jamais été suspendus. 13 de ces nageurs ont pu participer normalement aux JO de Tokyo. Ils ont même remporté des médailles. Une thèse est avancée dans le rapport de l'Agence nationale antidopage chinoise, gérée notamment par les services secrets. Une contamination par la nourriture préparée dans une cuisine de l'hôtel sur le lieu de la compétition. Cette thèse a été validée par l'Agence mondiale antidopage. L'AMA a évoqué un manque de toute preuve crédible pour ce dossier. Elle assure avoir examiné attentivement la situation et avoir demandé le dossier complet. L'AMA dénonce des propos diffamatoires, mais il y a énormément de zones d'ombre dans ce dossier. Si la Chine a divulgué ces informations dans le logiciel de l'Agence mondiale antidopage, pourquoi les nageurs n'ont jamais été suspendus le temps de l'enquête? Aucune investigation plus poussée de l'Agence mondiale antidopage n'a eu lieu. L'excuse trouvée en raison du Covid, aucun enquêteur n'a pu entrer en Chine. Ce dossier montre aussi les limites de l'Agence mondiale antidopage qui se repose sur des cellules locales. La trimétazidine est une substance interdite depuis 2014 et certains de ces nageurs chinois seront présents à Paris cet été.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat. La lutte antidopage régresse-t-elle? Dans le coin gauche, la team oui, représentée par Christophe Cessieux et Olivier Giraud. Dans le coin droit, la team non, Fred Weiss, Renaud Longuèvre. On vous a posé cette question depuis tôt ce matin sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. 88% pensent que oui, la lutte antidopage régresse. Vous avez 12%, c'est à vous de jouer Fred Weiss, Renaud Longuèvre pour tenter de renverser un peu la tendance, mais déjà nous apporter un petit peu de biscuit sur ce dossier extrêmement sensible. Renaud Longuèvre.
Bah déjà moi je trouve que vous êtes dans chez les bisounours ceux qui pensent que la lutte antidopage régresse. Je veux dire la limite de l'antidopage, c'est la géopolitique tout simplement. J'ai envie de comparer l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, à l'ONU. Est-ce que vous pensez que l'ONU a suffisamment de pouvoir pour régler le problème de la guerre en Ukraine et l'affrontement Iran-Israël? Zéro. La limite, c'est la géopolitique, les amis. Donc, à un moment, l'AMA, si la question, c'est est-ce que, parce que ce qui a pas été dit tout à l'heure, c'est que en fait, c'est l'agence antidopage chinoise qui quelque part qui a blanchi les nageurs, alors qu'elle est censée les sanctionner. Alors la question, c'est est-ce que l'agence antidopage chinoise, elle est complice d'un dopage organisé? Mais moi, je vous le dis, mais oui, bien sûr que oui. Mais arrêtez de croire au monde des bisounours. Alors celui qui a piqué l'AMA, c'est Travis Tygart, qui est un avocat de formation, qui est un monsieur qui ne craint personne, c'est sinon Dieu. Mais c'est lui Dieu dans l'antidopage. C'est le mec qui a fait sa légende avec qui a fait tomber Armstrong. Mmh. Et c'est ce mec-là qui a attaqué l'AMA. Et l'AMA a répliqué en disant oh, attention hein, parce que on a procédé un peu la même manière, on a accepté vos explications à vous, agence antidopage américaine, sur certains cas de contamination ou autre. Donc, mais la limite de l'antidopage mondial, c'est la géopolitique. C'est que les États sont souverains chez eux. Et si une agence antidopage locale, nationale, a décidé d'être complice du dopage, eh ben, l'AMA, arrêtez de croire qu'elle a le pouvoir. Qu'elle a le pouvoir.
Il fait des circonvolutions pour nous expliquer exactement que l'antidopage régresse et qu'elle est au plus bas, quoi.
Précision.
Mais c'est un bel exercice de style qu'il fait, quoi.
Précision. Magnifique. Travis Tygart, c'est le patron de l'agence américaine antidopage, car tu le citais il y a quelques instants, il a déclaré après ce nouveau scandale et donc cette enquête du New York Times notamment, c'est un coup de couteau dans le dos des athlètes propres et une profonde trahison des athlètes qui concourent de manière juste, qui suivent les règles. Olivier Giraud.
Comme le dit Christophe, t'es trop fort. T'es trop fort, Renaud, parce que on te demande si la lutte régresse et la géopolitique fait partie de cette régression. Évidemment, mais pas seulement. Ça veut dire qu'on pose la question des Chinois pendant le Covid, la manière dont on pouvait faire les contrôles, en dehors même de l'agence chinoise qui aurait dû prendre des sanctions. Mais là, tu as raison, il faut pas rêver. Mais aujourd'hui, on peut aussi se poser la question, tu parlais de géopolitique, de la guerre en Ukraine, comment on a contrôlé les sportifs russes et ukrainiens pendant ces années de conflit.
Mais la vraie question, c'est pas ça pour moi. La vraie question, c'est vous dites que ça régresse, mais est-ce que c'est pas juste un état de fait et que ça stagne?
Parce
que
ça stagne, mais c'est exactement ça.
On en parlait tout à l'heure. Moi, je dirais pas que sur la géopolitique, j'irais sur le dopage à plusieurs vitesses.
J'avais pas fini, c'est pour ça. Ça veut dire qu'il y a la partie géopolitique déjà qui est très préoccupante. Et après, il y a deux choses. Ça veut dire que pour savoir si tu stagnes ou tu régresses, évidemment que la main s'est améliorée. Elle s'est améliorée. Mais qu'est-ce qui s'est amélioré derrière ça? Ce sont les techniques du dopage aussi qui s'améliorent.
Bien sûr.
Et que
tu seras toujours en retard de tout temps.
Les voleurs auront toujours un temps d'avance sur les gendarmes, mais de toute manière.
Aujourd'hui, oui, ça régresse. On parle de la natation. Il n'y a pas très longtemps, il y a un record du monde, c'est passé à travers, mais qui a été explosé. C'est le record du monde du 100 mètres. C'est-à-dire qu'il y a un nageur chinois de 19 ans qui était un nageur de longue distance plutôt, et qui est arrivé, qui a surpris tout le monde et qui a battu le record du monde, le record du monde du 100 mètres au championnat du monde à Doha, qui a été et qui a gagné ses mondiaux. Donc on le sait, c'est dire que et Camille Lacour en parle, c'est dire que tu veux savoir si ça avance ou ça régresse. À l'époque de Rio, on était déjà là. Avec des nageurs chinois.
Donc,
qui arrivaient.
Tu as des arguments pour dire que ça stagne. Parce qu'à l'époque de Rio, on était déjà là. On était en train de dire que les mecs pissaient violets.
Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Olivier.
Alors, il y a un truc nouveau, qui me choque un peu. C'est que j'ai l'impression que la lutte antidopage, selon que tu sois riche, quand tu es pris dans les filets de l'antidopage, selon que tu sois riche ou que tu sois pauvre, c'est différent. Ton traitement est différent. Regarde certaines athlètes, certaines tenniswomen, qui sont tombées, pour contrôle positif, eh bien grâce à des professeurs géotrouve-tout qui ont utilisé des machines qui coûtent des millions de dollars, eh bien t'arrives finalement à prouver ou à laisser le doute sur ton contrôle antidopage. Mais en revanche, si t'es un pauvre mec qui fait une discipline qui te rapporte aucun argent, tu as aucun moyen de prouver.
Mais ça s'appelle la vie, ça. Il y a des mecs qui payent pas d'impôts parce qu'ils payent des avocats fantastiques.
L'antidopage devrait justement être un truc égalitaire pour tout le monde. Ça n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, et ce qui me rend dingue encore aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui soit pris dans les filets de l'antidopage et qui dise oui, ok, j'ai fauté, j'ai fait une connerie. Non, c'est oh là là, c'est saloperie de suppléments alimentaires. Oh là là, j'ai une relation avec mon compagnon, c'est lui qui m'a filé ces trucs. Tu trouves des excuses, c'est exactement l'histoire de Richard Viran, que j'ai été dopé à l'insu.
Mais Christian, tu comprends,
on est en 2024 et on est encore
Armstrong,
là.
Mais t'es obligé de te défendre, tu risques ta carrière à chaque fois. Moi, j'ai une anecdote par rapport au dopage à plusieurs vitesses. J'ai fait des contrôles anti-dopage en France, où le mec regardait quand tu lui faisais pipi. Il était là, il regardait, c'était d'une pression folle. J'ai fait les mêmes
chez contrôles toi,
à la maison, tranquille, le mec te suivait. Enfin,
tu sais pourquoi? Attends, parce que dans les années 70, il y a un coureur cycliste belge qui est allé faire un contrôle antidopage avec une poire.
Ensuite, je suis allé jouer en Grèce et en Espagne. Les mecs m'ont dit, tu vas aller faire pipi là-bas. Là-bas, c'était dans l'autre bâtiment où personne me suivait. Donc voilà, c'est déjà à plusieurs vitesses le dopage. Mais ça, je vous parle en 2000. Donc en quoi ça régresse? Ça stagne. Et effectivement, les dopés auront toujours
une
avance sur ceux qui vont les contrôler. C'est tout à fait logique.
Non, Christophe, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Et Christophe, je vais même au-delà. Je t'adore, mais c'est irresponsable de parler comme ça.
Mais regarde, il y a des pages d'État quand t'as la Russie d'un côté, l'autre côté.
Dimitri Bascou, là, qui vient de tomber pour l'athlétisme français. Bon, tu vois, des cas comme ça, et on est en France, à l'approche des Jeux. Donc, tu peux pas décrédibiliser et jeter l'opprobre sur tous les gens qui luttent contre le dopage. dans les agences.
Mais dans les pays démocratiques, dans les pays démocratiques, dans les pays démocratiques, alors oui, le dopage est plus complexe, mais on a progressé aussi dans la façon de le trouver. Donc quelque part, c'est exactement pareil qu'avant.
Je voudrais qu'on avance un peu dans ce débat et vous faire écouter, tu l'as reçu, c'est le président de la Fédération Française de Natation hier dans ton émission l'après-midi, l'intégral sport, Christophe Cessieux, c'est Gilles Cézonial qui évidemment était très en colère.
Ça jette à l'opprobre sur l'ensemble des athlètes. Et puis après, on peut devenir que suspicieux par rapport à ses performances. Et ça, c'est vraiment pas bon pour l'ensemble de la discipline. Ouais. Pour voir blanchir 23 athlètes qui ensuite ont performé au jeu, c'est assez malvenu. Moi, ce que j'espère, c'est que toute la lumière soit faite et qu'à travers ce scandale qui sort par en fait un média qui a fait l'enquête, c'est quand même assez extraordinaire. Je suis vraiment abasourdi parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Je peux vous dire que nous, chez nous, tous nos athlètes sont suivis avec le staff médical. On sait exactement quels produits ils prennent. Voilà, il y a vraiment un gros travail qui est fait. Franchement, il n'y a aucun souci sur l'équipe de France.
Est-ce qu'à un moment donné, la natation chinoise, là, aux Jeux Olympiques, est-ce que le CIO doit prendre ses responsabilités et doit exclure la natation chinoise? Est-ce que ça, c'est possible, Olivier?
Et ils l'ont fait avec d'autres pays, pourquoi pas? Il faut que tu arrives à prouver.
Et c'était validé par la main, comment tu veux faire?
Ouais, on est sur le terrain du juridique, Olivier. On est sur la limite.
Et là, ils font très, très attention parce que tu peux te faire retoquer. Il faut avoir les vraies preuves. Il faut que vraiment
c'est impossible avant les Jeux de Paris parce que ça veut dire que la main revient sur ses propos.
Bien sûr.
Et donc là, ça met à mal la main et donc tu n'aurais plus aucune légitimité d'aller faire un contrôle avec tous les autres athlètes.
Juste pour revenir à la magnifique interview de Christophe Cessieux. Il explique, le président de la Fédé explique quand même que eux, pendant ce laps de temps, il y a eu un junior qui a été pris, qui a été reconnu non coupable, mais qui a été suspendu 2 ans et qui a raté sa carrière à cause de ça. Et le deux poids deux mesures dans le dopage, par contre, ça, c'est absolument scandaleux.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de, j'en parlais tout à l'heure de Sun Liang, là, le triple champion olympique.
Celui qui pisse violet.
Exactement, triple champion olympique. Je ne me souvenais plus, en préparant cette émission, évidemment, j'ai pu me rafraîchir la mémoire, qu'il est suspendu pour dopage depuis 2020 et qu'il va manquer les Jeux Olympiques de Paris parce qu'il n'a pas pu, en raison de cette suspension, faire les minima.
Il y a un troisième bras qui a poussé, paraît-il. Les Jeux Olympiques. Les Jeux lancés par le milliardaire américain, là.
Très bien. Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler, mais. Juste pour vous donner cette information, parce que je l'avais totalement oublié, il a été donc suspendu en février 2020 parce que en fait, donc il y avait des contrôleurs qui étaient venus chez lui et il avait détruit à coups de marteau l'échantillon de son sang prélevé lors de ce contrôle antidopage.
Il n'aurait pas été plus simple de les empêcher de prendre le sang plutôt que de le détruire après.
Par contre, Renaud, les généralités, tu sais que j'aime pas ça. Évidemment, on sait depuis toujours que il est difficile de contrôler, de surveiller certains pays. Ça, j'en suis d'accord. Mais de là à dire qu'il y a qu'eux qui font ça, toi qui as l'athlétisme, moi, on peut être suspicieux. Le dernier vainqueur du 100 mètres, Marcel Jacobs, il fait pas partie d'un pays, d'un pays autoritaire. Hein, il a fait une course, on l'a plus jamais revu. Donc, tu vois, ça arrive dans tous les pays.
N'importe quoi, Olivier.
Là,
tu fais du Cessieux.
C'est de la contamination comme en Chine, tu t'écartes un petit peu de Christophe, c'est là que c'est important.
Mais là tu jettes l'opprobre sur un mec qui
fait la même chose.
Le mec a eu aucun contrôle positif, il a même pas eu la moindre histoire, était en train de mettre la suspicion sur un mec. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucune charge, il n'a jamais de contrôle positif. Et en plus, là où tu te trompes, c'est qu'il a été champion d'Europe à Munich, donc un an après les Jeux Olympiques en 2022. Et il gagne les championnats du monde en salle, il est champion du monde en salle 6 mois après les Jeux.
Tu as perdu une occasion de me taire, mais c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que la manière dont tu as parlé de la géopolitique, évidemment qu'on peut avoir des suspicions, évidemment il y en a beaucoup qui se sont fait attraper. Mais en fait, la manière dont tu le dis, c'est-à-dire que tous les Russes, tous les Chinois sont dopés. Et j'y crois pas ça non plus.
Jacobs qui a été.
J'ai pas dit donc, ça, Olivier. J'ai dit simplement.
Ouais, non, il parle de sa charge étatique.
J'ai dit que ceux qui sont dopés
peuvent être couverts par l'État.
Juste pour venir en appui d'Olivier, une enquête policière italienne a quand même visé un certain Giacomo Spazzini, que tu connais sans doute, Renaud, ancien nutritionniste de Marcel Jacobs, pour distribution illégale de stéroïdes anabolisants. Voilà, c'est arrivé en 2020.
Oui, mais il n'a jamais été convaincu.
Mais il y a malgré tout, ça en fait un dopé.
Je vais t'en donner un autre. Qui est le champion olympique qui a battu Bolt?
Qui a battu Bolt
au 100 mètres. Gatling. Comment ça se fait que vous, en athlétisme...
Il s'est fait choper deux fois.
Quand un mec se fait choper, si justement
il n'y avait pas de lutte antidopage, le mec n'aurait pas pris 4 ans de suspension. Il a eu 2 contrôles positifs dans sa carrière. Ça prouve bien que le truc, ouais, les Américains sont protégés, bah ça marche pas. Gatlin, Américain de surcroît,
mais normalement, il devrait même pas courir. Et gagne et devient champion olympique et s'achène personne après.
Ah bah ça,
ça veut dire
après,
deux poids deux mesures.
Il y a des règles, c'est les batailles juridiques avec des avocats.
Heureusement que moi je m'occupe d'un sport qui est en matière d'antidopage est impeccable. Je vous le dis moi.
Bien sûr, le cyclisme, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants, car tu faisais référence au vélo. Juste dernière question avant de prendre Richard qui nous appelle au 32-16. Juste, c'est impossible donc que la Chine, que la natation chinoise soit exclue des Jeux Olympiques, Renaud?
Ouais, pour moi c'est impossible parce que c'est justement pourquoi l'AMA est vraiment très mal à l'aise, parce que elle a suivi la décision de l'agence antidopage chinoise, parce qu'elle a étudié et il y avait aucune faille juridique dans leur défense, et par le fait qu'ils aient pas pu rentrer à cause du Covid dans le pays, ils ont pas pu aller collecter des preuves, contrairement aux Russes où dans le rapport McLaren il y avait des preuves accablantes qui ont permis, si tu veux, la condamnation et le fait d'être sûr à 100% juridiquement qu'il y avait eu faute et d'exclure les Russes. Mais là, c'est impossible juridiquement. C'est pour ça que l'AMA a pas eu autre chose à faire que de suivre l'agence antidopage chinoise. Mais je pense que l'AMA, ils sont pas dupes non plus. Mais c'est juste que juridiquement, ils avaient aucun moyen de prouver le dopage. Et résultat, ils vont être au jeu. Et bien sûr que de vous à moi, je me répète, je dis pas que tous les Chinois sont dopés, mais je pense que sur cette affaire-là, sur ce cas précis, mon sentiment profond à moi, c'est qu'il y a eu complicité entre l'agence antidopage chinoise qui n'a pas fait son taf vis-à-vis des cas positifs.
Ok, très bien. Voilà. Bon, on a parfaitement compris. Évidemment, vous pouvez aller suivre ça sur rmcsport.fr et on va suivre ce dossier attentivement. Richard nous appelle au 32-16. Bonjour Richard.
Bonjour toute la team, ça va?
Bonjour.
On va très bien, Richard. Et toi, que penses-tu de ce dossier? Est-ce que la lutte antidopage régresse?
Alors, elle n'a jamais régressé, elle n'a jamais progressé. C'est une vaste foutaise. pour moi, mais regardez, peu importe les époques, peu importe les sports, on a toujours les mêmes débats à quasiment les mêmes moments et évidemment, toujours pour les mêmes athlètes, voire même les mêmes nations. Regardez dans le cyclisme avec Sam Strong, regardez, je vais même faire descendre une petite flèche, Carl Lewis qui a été inquiété.
Attention, tu vas avoir Renaud Longuet qui va te tomber dessus.
Il a raison, années 90, machin. Bizarrement, c'est toujours les mêmes nations. Regardez les Russes, regardez les Chinois. En 2016, Camille Lacour, vous le disiez tout à l'heure, disait Sun Yong, pisse violet. Tout le monde le sait. Comment vous ne pouvez pas agir? Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Les Chinois ont fait des progrès énormissimes dans tous les sports d'un seul coup. Non, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Et à un moment donné, ça régresse, ça progresse. Mais on se moque de qui? Mais l'Agence mondiale antidopage, c'est du travail fictif. C'est en fait, et comme disait Renaud Longuet tout à l'heure, la géopolitique est d'une importance rare. Pourquoi, au moment où la Russie a été le plus faible géopolitiquement, là, l'Agence mondiale antidopage s'est permise de mettre de côté tous les athlètes russes et de les faire passer sous bannière olympique et pas sous bannière russe? Parce qu'à un moment donné, les Russes étaient faibles. Et mais là, les Chinois, qui sont d'une force incroyable d'un point de vue géopolitique, et surtout extrêmement sensibles, mais vous pensez qu'ils vont vraiment être mis de côté? Mais jamais de la vie. Et c'est pas qu'une question juridique. C'est juste que comme ils sont extrêmement puissant, comme c'est les numéros 1 en termes de médailles, comme en ce moment Xi Jinping, quand il dit c'est comme ça, et ben ce sera pas autrement, et vous verrez qu'en fait bah, tout le monde ploiera le genou, parce que c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, et ce n'est que dans plusieurs années quand cette fédération-là n'inquiétera plus personne, et ben là, comme par hasard, comme pour Armstrong, vous verrez que le scandale ressortira et que l'Agence mondiale antidopage et ces millions de dollars accrédités n'auront servi à rien si ce n'est à faire bien vivre les gens qui y travaillent.
Merci beaucoup Richard pour ce coup de gueule. C'était voilà très intéressant de t'entendre sur ce sujet. Et à bientôt sur RMC. Un peu pris par le temps, 10h32, toutes les dernières informations sur ce scandale dans le monde de la natation, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Liège, Bastogne, Liège. Van der Poel est-il plus impressionnant que Pogacar? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h36, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Christophe Cessieux, Renaud Longuèvre, Olivier Giraud, Fred Weiss dans moins de 10 minutes maintenant. On s'en fout pas. J'ai beaucoup de choses à vous raconter et notamment Armand Duplantis qui bat encore une fois son propre record du saut à la perche. C'est la 8e fois que ça arrive. Vous me direz si ça vous intéresse ou non.
J'utilise des ressorts, il paraît, Renaud. C'est ce que tu disais, non?
À vous tenir. On laisse Renaud tranquille sur cette question. Le Grand Prix de Chine, rapidement, comment ça se passe, Jean-Lucroix?
Eh ben, nous sommes au 52e des 56 tours de ce Grand Prix. Verstappen, après le feu vert au 32e tour, donc il y a 20 tours maintenant, a creusé un écart de 11 secondes exactement sur Norris. Donc Verstappen, leader de ce Grand Prix de Chine. Lando Norris avec la McLaren est pour le moment en deuxième position. Il était parti quatrième. On a Sergio Perez qui est troisième à 4 secondes de Lando Norris. Et puis ensuite les deux Ferrari de Charles Leclerc, quatrième et cinquième. Russell est sixième. Alonso, septième. Piastri, huitième. La belle remontée d'Hamilton qui est neuvième. Du côté des Français, Ocon aux portes des points, onzième. Et Gasly, quatorzième.
C'est le duel tant attendu aujourd'hui à l'occasion de la 110e édition de Liège-Bastogne-Liège, le quatrième monument de la saison. Tadej Pogacar, vainqueur en 2021, face à Mathieu Van Der Poel, stratosphérique depuis un mois, récent vainqueur, vous le savez, de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. Depuis 4 ans, les deux monstres du cyclisme dominent les grandes classiques. Depuis le début de la saison, ils ont remporté tout de même à eux deux 9 victoires en 15 jours de course. Notre commentateur Arnaud Souk a rencontré le double vainqueur du Tour de France cette semaine. Même le Slovène est impressionné par les performances du monstre néerlandais. C'est la punchline des GG Tadej Pogacar.
RMC, la punchline GG.
What he does every year.
Ce qu'il a fait depuis le début de la saison est très fort. Tous les ans, c'est fou, mais cette année, il met la barre encore plus haut en gagnant des courses magnifiques avec le maillot de champion du monde. Il court incroyablement bien sur les courses importantes. C'est le coureur des grandes courses d'un jour.
He's the rider for the biggest races.
Notre débat, Van Der Poel est-il plus impressionnant que Pogacar? Difficile de poser cette question il y a un an, mais un an plus tard. Oui ou non, Christophe Cessieux?
Non.
Renaud Longuèvre?
Oui.
Fred Weiss?
Non.
Olivier Giraud?
Non.
Pourquoi non, Christophe Cessieux?
Alors, j'adore Mathieu et franchement, il fait un printemps exceptionnel. Il a été génial dans Paris-Roubaix, dans le Tour des Flandres et franchement, sur les courses d'un jour qui sont relativement plates, il est aujourd'hui le seigneur. D'ailleurs, il 6 monuments à son actif. Il en a un de plus que Tadej Pogacar. Mais je veux bien, mais Pogacar, c'est quand même le descendant direct des copies Merckx et Hinault. C'est un mec qui est capable de gagner dans les courses d'un jour. Il l'a déjà fait à 5 reprises. Bon, il n'a pas gagné encore Paris-Roubaix parce qu'il ne s'est jamais aligné sur Paris-Roubaix.
Mais c'est un objectif, il l'a dit. Aussi,
il veut gagner tous les monuments. Voilà, il veut faire comme les plus grands de l'histoire du cyclisme. Mais à la différence de Van Der Poel, il va s'aligner dans quelques jours au départ du Giro et derrière au départ du Tour de France avec l'objectif non pas de gagner une étape, mais de gagner les deux grands tours. Et il les a dans les pattes, ces victoires. Donc, tu peux pas comparer un mec qui est capable de gagner du premier au dernier jour de l'année, que ce soit des courses par étapes de 3 semaines, d'une semaine, des grandes classiques avec un garçon qui est certes exceptionnel, qui a un talent dingue et que j'adore, franchement, c'est mes deux coureurs préférés pour tout vous dire. Mais il y en a un qui est quand même, bah oui, non mais parce que non seulement ils savent gagner, mais en plus ils donnent vraiment quelque chose.
Le frisson,
toi t'en mets un au-dessus de l'autre.
Ah ben Poggi au-dessus de l'autre.
Il en met un qui est plus complet. Il y en a un qui est unidimensionnel, entre guillemets, hein, vraiment, je prends des pincettes pour le dire, et l'autre qui a cette capacité d'être bon sur les classiques et d'être bon sur les grands tours aussi. Et donc c'est un ressenti, mais concrètement, je le comprends.
Olivier, t'as l'air pas d'accord avec eux, vas-y, après Renaud.
Non, mais je suis d'accord, mais pas tout à fait. Pour moi, c'est pas les mêmes coureurs. Ça veut dire qu'il y en a un, franchement, il m'impressionne de gagner toutes les classiques comme ça. Et puis il y en a, c'est du décathlon qu'il fait. Il est trop fort, il sait tout faire et sur la longueur. Donc pour moi, c'est deux types de coureurs différents. Ils sont extraordinaires.
On peut pas les comparer.
Mais en fait, j'arrive pas à les comparer parce que.
Oui, mais ils sont.
Et après, cet après-midi, c'est un vrai débat entre les deux. Alors là, selon la classique, c'est plus avantageux pour l'un ou pour l'autre. Là, cet après-midi, a priori, c'est plus avantageux pour Pogacar, mais sur le Tour de des Flandres, s'ils s'alignent tous les deux, ce sera peut-être plus avantageux pour Van Der Poel. Sur Paris-Roubaix, ce sera plus avantageux pour Van Der Poel. Ça dépend du terrain sur lequel ils se trouvent.
Je suis d'accord, c'est que là où est fort Pogacar, c'est là où tout le monde se rassemble. C'est-à-dire que quand tu gagnes le Grand Tour, soit le Giro, soit le Tour de France, tu es porté au Panthéon automatiquement. Donc c'est vrai que on compare en fait la notoriété de ce qu'ils peuvent gagner. C'est-à-dire que Pogacar peut gagner le Tour de France. Et peut-être pas Van Der Poel.
Ah non.
Et donc, c'est ce qui fait la différence entre les deux, mais j'en trouve pas un moins extraordinaire que l'autre, parce que ce que fait l'autre en gagnant toutes les classiques.
Mais Pogacar aussi, il gagne toutes les classiques.
Oui, c'est ça.
Renaud Longuèvre, avant de filer à Liège, hein, dans quelques instants, on retrouve Arnaud Souk qui commentera la course aujourd'hui. Renaud Longuèvre, pourquoi, pour toi, Van Der Poel est plus impressionnant que Pogacar?
Bah parce que je pense que je regarde pas le sport comme Christophe Cessieux et si tu veux quand moi je vois ces deux coureurs quand je les regarde à la télévision je Christophe il voit des mecs qui pédalent moi je vois, tu prends un peu de hauteur, tu es l'aigle qui regarde
au-dessus des moineaux Renaud
pas du tout Christophe, c'est pas ça, c'est que toi quand tu vois des mecs qui pédalent, moi je vois des muscles, des tendons, des agonistes, des antagonistes. Et si tu veux, pendant Paris-Roubaix, j'étais chez moi tranquillement, je regardais Paris-Roubaix, et quand Mathieu Van Der Poel a attaqué d'aussi loin, j'ai commencé à bombarder de textos Florian Rousseau, avec qui je suis très pote, et je lui ai mis un texto, c'était « Putain, mais qu'est-ce qu'il leur met, quoi ?» Qu'est-ce qu'il leur met? Et Florian, il m'a renvoyé des textos. Et lui-même, qui est triple champion olympique sur piste, ben, il était choqué, quoi. Il était bluffé. Donc, si tu veux, là où moi, je vais pas te vendre que, je vais pas contester la polyvalence d'un Pogacar et tout ce que t'as dit, que c'est un héritier d'Ino et que
bien. Mais c'est sur ta sensation, Renaud.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, là.
Ton amour du sport et ta propre vision.
Exactement, c'est-à-dire que moi, quand je regarde le vélo, j'en fais un peu.
Mais t'as regardé l'Estrade Bianche quand Pogacar remporte la course avec 80 km d'échappée. Est-ce que tu as regardé ses tendons et ses muscles aussi à Pogacar?
Je vous coupe les deux, pardonnez-moi, priorité au direct. Avec la fin du Grand Prix de Chine et la victoire de Max Verstappen, j'en lui crois.
Oui, absolument. On est dans le tout dernier tour, dans les derniers mètres, et une nouvelle victoire donc de Verstappen, qui est parvenu à creuser cet écart dont je vous parlais il y a un instant sur Lando Norris. Il va terminer avec 14 secondes d'avance. Il s'agit de la 58e victoire du pilote Red Bull, la 4e de la saison. Évidemment, il creuse un peu plus l'écart au championnat du monde. Le deuxième, c'est Lando Norris. Lando Norris qui a fait un beau Grand Prix. Il est parti 4e, il termine 2e. Donc Sergio Perez termine lui 3e. Il était sur la première ligne aux côtés de Verstappen. Et puis on retrouve aux 4e et 5e places les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Russell, avec la première des Mercedes, termine 6e. Russell, il était parti 8e. Et puis on a Fernando Alonso qui, lui, a une stratégie un petit peu décalée, un petit peu audacieuse, qui n'a pas trop payé. Il termine 7e devant Piastri. Hamilton remonté donc de la 18e à la 9e position. Et le dernier point est pour Hülkenberg, et malheureusement pas pour Esteban Ocon, 11e, et Pierre Gasly, 13e.
Allez, on débriefe ce Grand Prix à partir de 11h avec toi, Jean-Luc. Je crois, merci beaucoup, à tout à l'heure. À Liège, en direct de Liège, il nous attend également, c'est Arnaud Souk, notre commentateur cet après-midi. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Enfin un grand duel dans une classique.
Oui, même si ce duel hein, entre Van Der Poel et Pogacar nous avait d'ailleurs déjà fait saliver sur les routes de Milan-San Remo mi-mars, mais sur un terrain pas assez difficile, Pogacar n'avait pas réussi malgré ses nombreuses tentatives à faire vaciller Van Der Poel, lui qui s'était sacrifié dans le final pour son coéquipier Philipsen, plus à même que lui de l'emporter. Alors le duel est attendu hein, de nouveau aujourd'hui, cette fois-ci sur les routes glaciales de Wallonie, avec une descente vent de nord dans le dos donc, et avec peut-être de la neige à la clé vers Bastogne, aux confins de la Belgique et du Luxembourg. On remontera ensuite à Liège via 9 difficultés, dont les célèbres côtes de la Redoute et de la Roche au Faucon, cette dernière placée à 13 km 300 de l'arrivée, 1 km à 11% de moyenne, qui correspondent a priori mieux aux qualités de puncher grimpeur de Pogacar qu'aux pures qualités de puissance de Van Der Poel. Mais le vent, je vous en parlais, il pourrait avoir son rôle à jouer, parce que s'il est dans le dos à l'aller, automatiquement il sera dans le nez au retour sur les 157 derniers kilomètres de course, et ça va pas forcément favoriser des attaques de loin. Justement, on parlait de celle de Pogacar au Strade Bianche, ou celle de Mathieu Van Der Poel vent dans le dos sur le dernier Paris-Roubaix. Eh bien voilà, ça va pas favoriser des attaques de loin. On aurait pu imaginer pourtant Tadej Pogacar tenter d'attaquer dans une difficulté précédente hein. il y en aura 9 sur les 100 derniers kilomètres, donc il y a de quoi faire. Bref, sur le papier on a envie de dire que Pogacar est l'immense favori. Dans les faits, même si Van Der Poel a dit qu'il lui serait très difficile hier de gagner la doyenne, il pourrait quand même avoir sa chance.
Merci beaucoup Arnaud Souk, on se retrouvera tout au long de la journée pour ce Liège Bastogne.
Avec Cyril Guimard,
très intéressant évidemment. Bon, on va arrêter ce débat, on a compris, difficile de les comparer, Pogacar un petit peu au-dessus pour certains, et selon la vision de Renaud, lui le préparateur, l'athlète.
Non mais Renaud, tu n'as pas répondu à ma question sur l'Estrade Bianche.
C'est comme si tu voulais comparer Usain Bolt avec Kevin Mayer. Ça te parle ou pas ça? C'est-à-dire que Van Der Poel, ce qu'il a fait, la performance, le niveau de performance qu'il a eu sur Paris-Roubaix, avec l'optimisation mécanique, quand tu vois sa posture, il va au bout de la triple extension de sa chaîne des extenseurs. Il a la pédale, il a la jambe qui est tendue, le genou qui est complètement tendu quand il va dans la poussée.
Pour suivre ta comparaison, c'est comme si Kevin Mayer courait 100 mètres aussi vite que Usain Bolt. C'est ça aussi. C'est qu'il est capable aussi de sur son propre
presque
terrain
aussi vite.
De courir. On verra aujourd'hui.
Il y a un cerveau derrière les muscles aussi.
Eh bien, on sera là sur RMC. J'aime en tout cas votre notion de... Bon, j'ai pas de mots pour ça.
On te pardonne.
C'est pas grave. 10h47, en plus je suis pris par le temps tout de suite, on s'en fout pas. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, nous allons débriefer la victoire notamment de Max Verstappen au Grand Prix de Chine. Nous parlerons de Ferrari, restez bien avec nous. On va tout vous raconter sur cette course qui vient tout juste de se terminer. Toujours avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Renaud Longuèvre et Olivier Giraud. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Luis Enrique qui se moque des critiques. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Je m'en fous pas.
Ok, Renaud Longuèvre.
On s'en fout pas.
Olivier Giraud.
Je m'en fous pas.
C'est le grand retour de l'entraîneur parisien en conférence de presse hier, après la qualification de son équipe, vous le savez, en demi-finale de la Ligue des Champions. Et vous allez l'entendre, le coach espagnol se moque bien des critiques à son égard depuis le début de la saison.
Pas du tout, en aucun cas. Je suis entraîneur depuis plus de 10-12 ans et j'ai été attaqué, vilipendé, ignoré. J'aime le rythme, j'aime la plaisanterie, il n'y a aucun problème. Qu'il continue à aboyer, la caravane passera.
Ok, je ne savais pas qu'on disait également en espagnol cette phrase.
Je viens de l'apprendre.
J'ai entendu les chiens
aboient, la caravane passe.
Comment ils disent?
Je ne sais pas. Pas de base.
Mais moi j'adore. Et il dit exactement ce qu'il affiche depuis le début. En fait, il joue avec les médias, il dit ce qu'il a envie, il applique le discours qu'il a envie d'appliquer, et il s'en fout complètement parce que lui, l'important, c'est le résultat. Et j'avoue que j'apprécie de plus en plus ce garçon.
Olivier?
Bon, en même temps, il était comme sa joueur. Hein. C'était un joueur de caractère. Et il faut pas oublier une chose, c'est que quand un entraîneur étranger vient dans un pays, surtout le type d'entraîneur comme Luis Enrique, il regarde un petit peu ce qui s'est passé auparavant, la manière dont ses prédécesseurs ont été traités. Donc il a pris le postulat tout de suite de se dire ouais, moi je vais faire mon boulot, de toute manière ça va rien changer.
Franchement, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, c'est la rigolade. Et l'Angleterre?
Alors, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que la presse espagnole, toi, tu y as joué en tant que joueur étranger en Espagne.
Oui, bien sûr.
Quand tu es espagnol en Espagne, c'est pas la même chose. Tu sais, il faut toujours voir par rapport à là où tu viens. Là,
oui, mais ils viennent pas pour critiquer, ils t'attaquent directement aussi.
Ils peuvent t'attaquer directement, mais en général, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, je pense que Luis Enrique, tout simplement, il vient avec son caractère. Il sait que de toute manière, au PSG, il l'a bien vu avec ses prédécesseurs. Si tu passes pas le quart de finale, tu peux être le meilleur entraîneur, le meilleur communicant que tu veux. De toute manière, tu vas passer à la trappe et tu vas te faire critiquer.
C'est comme partout, c'est le résultat qui prime.
Donc, il se dit, je fais mon boulot et je m'occupe pas du reste.
Bon, deuxième information, Renaud, pardonne-moi, je saute ton tour pour une fois, mais tu vas parler dans quelques instants. Je sais que ça va t'intéresser. Deuxième information dans le zapping des GG, c'est Armand Duplantis qui bat le record du saut à la perche pour la 8e fois. On s'en fout pas.
Je ne m'en fous pas.
Oh, très bien. Renaud Longuèvre.
Je m'en fous pas.
Et évidemment, Olivier Giraud.
Je m'en fous pas et je laisse la passe aux spécialistes.
Armand Duplantis a donc encore battu son propre record du monde du saut à la perche samedi à l'occasion d'une manche de la Diamond League en Chine. Le Suédois a franchi dès le premier essai une barre à 6,24 m, améliorant d'un centimètre la marque qu'il détenait depuis septembre 2023. C'est absolument incroyable. Alors, il n'a pas encore fait mieux que Sergei Bubka qui avait battu à 18 reprises.
35 fois même, moi j'ai lu avec en salle.
Mais parce qu'à l'époque, ouais, tu pouvais.
Voilà, et là c'était à 18 reprises le record du monde entre 84 et 94. Et il s'était arrêté à 6,14 m.
Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque centimètre.
Un million.
C'est 100 000 dollars, je crois. Hein.
Ah, je pense que c'était plus que ça.
Renault. Ça dépend des meetings.
Je crois que c'était un truc fixe donné par les.
Non, il y a des meetings, c'est 50 000 dollars.
Ce qui est fou, c'est qu'il pourrait. Il paraît qu'hier, il aurait pu le battre de 4-5 cm. Mais non, comme Bubka le faisait à l'époque, tu le bats de centimètre par centimètre parce que c'est jackpot à chaque fois. C'est génial. Non, outre ça, c'est dingue parce que ce record du monde de la perche, j'ai été regarder, il est passé en 40 ans de 5,85 m à 6,24 m. Il a été battu à 29 reprises par 4 champions. Alors que dans le même temps, le saut en hauteur, le saut en longueur, le saut en hauteur, 7 fois seulement, 7 records du monde depuis la même époque. Et le record de la longueur, il n'a été battu qu'une seule fois dans cette période par Mike Powell en 91. Il y a vraiment des records qui évoluent à vitesse grand V et d'autres qui stagnent. Je sais pas comment on peut expliquer ça.
Il y a du matériel et puis il y en a, c'est tes muscles.
Alors voilà, peut-être c'est la différence, c'est la perche.
Ouais. Je pense que c'est il y a le paramètre technologique, si tu veux, à la perche qui fait que la fibre de verre, par exemple, le record avait pas énormément évolué entre 1900 et 1960 parce que c'était des perches rigides et puis à partir de 1960 la fibre de verre est arrivée et on reste encore, si tu veux, dans le développement depuis l'avènement de la fibre de verre. Donc voilà, ça peut expliquer. Alors que si tu veux le saut en longueur, l'exemple que tu as pris, Bimbon avait explosé le record, hein, de 8,36 à 8,90. On se souvient que les appareils de mesure étaient pas, ils avaient été obligés de ressortir un ruban pour le mesurer son saut. Et puis derrière, Powell, bien sûr, mais je pense que la longueur, ça viendra, mais il faut trouver un oiseau rare, une génétique.
Faut peut-être un chinois ou un russe, non?
Non, mais il a combien dans les pattes, honnêtement? Parce que là, il le bat de centimètre en centimètre.
Il paraît qu'il a 29, qu'il aurait pu passer 8.
Mais
dans franchement, l'absolu, est-ce que dans 10 ans, il passera 6 mètres 35?
Ouais, je pense que 35, c'est crédible, mais comme vous l'avez dit, il va falloir du temps parce qu'il va faire centimètre par centimètre, évidemment, pour économiquement, voilà. Non, ce qui est impressionnant là, hier, c'est que c'est l'ouverture de la saison, quoi. C'est le premier meeting de la saison. Les conditions étaient pas folichonnes. Moi, je regardais ça tranquillement. Je vois que la piste était mouillée. Qu'il avait plu. Le vice-champion, en plus, tout le monde était là, hein. Chris Nielsen, le vice-champion olympique, fait que 5,42. Il se vautre à 5,62. Tu te dis, bon, allez, c'est un petit concours pourri qui va faire pchit, puis tu vois l'autre qui arrive qui fait 5,82, il fait 6 mètres, il fait des sauts, mais il met des marges mais monstrueuses. Kendrick s'arrête très vite, fait 5,82. Et puis au premier essai, il te met un boulevard à 6,24. Donc tu dis, il a que 24 ans en plus. C'est pas un mec qui a l'habitude de se vautrer en championnat. Pff, monstrueux, quoi.
Bon, monstrueux, on s'arrêtera là pour le zapping des GG. Il est 10h56. Dans quelques instants, nous allons vous parler de Formule 1. Max Verstappen vient de s'imposer dans le Grand Prix de Chine. Et puis, il y aura le débat caché. Vous allez l'adorer. Ça, je sais. Et puis, le c'était mieux avant de Christophe Cessieux qui nous parlera de Colette Besson. Ce sera à 11h40. Restez bien avec nous. Encore un joli programme sur RMC pour les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.